Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus encore très nombreux ce soir, malgré le temps, qui est quand même un véritable facteur dissuasif. Je vais donc aujourd'hui consacrer la séance d'aujourd'hui à reprendre sous une forme un petit peu différente ce que j'ai déjà présenté la semaine dernière, c'est-à-dire les principaux résultats de l'analyse. Et je vais évidemment faire le lien avec ce qui va constituer le cœur de mon propos, à savoir la manière dont Pierre Bourdieu s'empare lui aussi de la question du porte-parole, de la condition du porte-parole. Et je souhaiterais, là aussi je m'en expliquerai dans un moment, distinguer deux moments importants dans la présentation de cette position ou de cette posture. Donc dans un premier temps, je souhaiterais ramasser les propos ou les résultats auxquels j'étais parvenu la semaine dernière. Et comme je le suggère, je le ferai peut-être d'une manière un petit peu différente, parce que l'objectif est évidemment de faire le lien entre ce que j'ai pu vous raconter et ce que je vais aujourd'hui vous raconter également. Vous vous souvenez, je suis parti d'une définition générale du porte-parole, plutôt que d'essayer de définir le porte-parole comme tel, je me suis intéressé à identifier une série de problèmes que posait l'étude de la figure du porte-parole. Il m'a semblé, et c'est en tout cas les conclusions auxquelles j'étais parvenu, qu'on pouvait distinguer trois types de problèmes qui sont évidemment liés, mais que pour des raisons pédagogiques et analytiques, il me semblait important de distinguer. D'une part, premier problème, on a constaté que le porte-parole détenait un pouvoir, c'est-à-dire une capacité d'expression publique, et que cette capacité, qui se manifeste à travers l'étendue et la variété des auditoires qu'il peut toucher, qui se manifeste également à travers l'étendue et la nature des relations qu'il peut entretenir avec les médias, cette capacité, donc, nous sommes en droit de nous demander comment elle se constitue, ou, ce qui revient exactement au même, comment le porte-parole finit-il par la détenir? À ce problème de la dimension, je dirais, performative de la parole publique, du porte-parole, s'en ajoute un second que j'ai évoqué et qui est évidemment lié à celui-ci. C'est le fait que le porte-parole s'exprime au nom de quelqu'un, de quelques-uns ou d'un certain nombre. Et que donc se joue de manière publique la forme et la force d'un rapport qui relie le porte-parole à une personne singulière, à un groupe de personnes, à une entité. Et que donc ici, ce second problème, qui est celui de la liaison et de la nature de la liaison entre le groupe et le porte-parole, est un problème tout à fait fondamental. Je vais y revenir dans un instant. Ce qui est sûr, et c'est une des questions que j'avais évoquées la semaine dernière, c'est que le porte-parole peut être l'occasion de poser à nouveau frais la question politique classique de la représentation du groupe. Au fond, on peut formuler cette question encore d'une autre manière. Le porte-parole qui s'exprime pour un groupe le fait parce qu'il s'estime légitime à parler au nom d'eux. Et dans cette légitimité de la parole singulière, qui est aussi une parole exprimée au nom d'eux, se joue une modalité tout à fait remarquable du problème de la représentation. Alors, évidemment, cette question, on va la retrouver aussi chez Pierre Bourdieu, et on verra de quelle manière elle est traitée. Alors, à ces deux problèmes, qui ne sont pas sans lien l'un avec l'autre, celui de la dimension active de la parole publique, du porteur de parole, et celui de la représentation, s'en ajoute un troisième, qui n'est pas moindre, et qui est celui du risque, toujours réel, effectif, hein, d'une parole portée qui s'émancipe, pour ainsi dire, du groupe qui lui a donné la possibilité au porteur de parole de s'exprimer en son nom. En clair, et pour annoncer un peu à l'avance ce que je vais évoquer aujourd'hui, le porte-parole représente certes le groupe qui lui délègue sa voix, sa parole, mais dans ce mouvement de délégation se niche autre chose que Pierre Bourdieu, s'appuyant sur Hobbes explicitement, va définir comme un rapport de dépossession. Au fond, et pour le dire d'une manière un peu plus synthétique, je dirais assez volontiers que le porte-parole détient une parole agissante, mais que cette performativité ne joue pas seulement en direction des destinataires de la parole prononcée. Elle joue également en direction des auteurs, c'est-à-dire des membres du groupe constitué qui, justement, lui délèguent la parole. Et on verra qu'avec Pierre Bourdieu, cette question, elle est absolument décisive, cette question de la seconde direction, c'est-à-dire non pas du porte-parole vers le public, mais bien du porte-parole vers le groupe qu'il représente. Cette seconde direction, elle est aussi porteuse d'effets de production, d'une dimension performative, c'est-à-dire qu'ici, c'est précisément la parole vivante, la parole prononcée, qui va permettre au groupe d'exister comme groupe. Autrement dit, le problème de la délégation, ici, c'est aussi celui qui fait exister le porte-parole comme représentant du groupe et qui, en retour, soulève la question du mode d'existence du groupe. Autrement dit, parler de dépossession ou faire expressément la liaison entre représentation et dépossession, c'est envisager cette seconde modalité de la relation performative qui ne va pas simplement en direction du public, mais qui revient également en direction de celles et ceux qui ont, pour des raisons qu'on évoquera aujourd'hui, délégué, transféré leur pouvoir d'expression. Autrement dit, l'existence personnifiée du groupe à travers la figure de son porte-parole, donne au porte-parole un pouvoir qui excède très largement celui de ce qu'on pourrait appeler la représentation, puisque précisément, en étant le groupe personnifié, par la parole qu'il détient, le porte-parole a la possibilité de dire ce qu'est le groupe, de le faire exister, de le faire être. Et dès lors, on pourrait presque dire que le porteur de parole, le porte-parole, a une capacité de production, de création, de mutation quasi ontologique, puisqu'il fait exister, à travers ce qu'il dit, ce qui jusque-là demeure à l'état amorphe, disséminé, silencieux. Il y a donc, ici, dans ce moment précis, de la personnification de la parole, la possibilité de dire ce qu'est le groupe, de le faire être, et dès lors, ce qu'il dit, ce que dit le porte-parole, ça n'est pas seulement une expression au nom d'eux, il s'agit bien plus radicalement, bien plus fondamentalement, d'une parole qui va faire exister le groupe, qui va lui conférer un mode d'existence. Ou pour utiliser une formule que j'emprunte à un philosophe qui a joué un rôle très important dans ces questions-là aussi, il rend présent, le porte-parole, par la vivacité et l'actualité de sa parole, rend présent ce qui n'est pas présent. C'est Derrida dont il s'agit. C'est précisément là, me semble-t-il, que réside, dans cette liaison productive, toujours instable, c'est là que réside la possible coupure entre le groupe et l'expression qui émane du porte-parole. Coupure dont les formes historiques, nous en connaissons quelques-unes, et celle notamment de la base partisane et du sommet de l'appareil, pour utiliser des termes peut-être plus historiquement connotés. Au fond, cette coupure, elle engage de façon extrêmement claire la capacité ou la possibilité d'une dépossession de la parole, qui fait que cette dépossession, elle équivaut à une séparation entre le groupe et ceux qui vont parler au nom du groupe. Alors ici, il me semble qu'il serait tout à fait possible, alors je n'ai pas choisi de le faire parce que ça pourrait être l'occasion d'une série de conférences ou d'une série de cours différents, il serait tout à fait possible de reprendre toute une littérature qui porte sur le statut des intellectuels révolutionnaires et les rapports qu'ils ont pu entretenir historiquement. Je pense à l'exemple des textes de Lénine sur le parti léniniste et sur les professionnels de la révolution, et sur les rapports qu'ils entretiennent avec la masse partisane ou les masses partisanes, depuis ce schéma justement du porteur de parole, du porte-parole. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai, si ça vous intéresse, une référence bibliographique tout à fait remarquable sur ces questions-là, où très précisément, à l'intérieur du courant marxiste, au début des années 60, certains théoriciens ont développé une critique de cette confiscation de la parole au nom d'une parole d'expert, d'une parole fondée sur l'autorité d'une connaissance, se prévaudrait de la possibilité de dire le vrai et d'orienter le sens du mouvement ou de l'action politique. Cette question, on va la retrouver notamment dans la troisième séance que je consacrerai à ce problème du porte-parole, parce que je crois très précisément que on peut tout à fait poser la question de la liaison entre le porte-parole et le groupe comme un paradigme, disons un modèle permettant de comprendre comment peut se confisquer la parole par l'expertise, au motif que cette connaissance experte peut justifier de s'auto-proclamer représentant de ceux au nom de qui on va parler. Donc là, il y a un schéma qui, me semble-t-il, est extrêmement important. Donc juste pour revenir à mon propos, voilà les trois problèmes que j'avais identifiés. Question de la performativité de la parole publique, question de la représentation du groupe à travers la parole vivante et délégation comme dépossession. Et il me semble qu'à partir de ces problèmes que je viens ici de reformuler, ramasser, je me suis attaché à décrire ce que j'ai appelé la semaine dernière l'hypothèse ou une lecture philosophique de cette question du porte-parole. Alors cette hypothèse philosophique, je l'ai développée en évoquant certains aspects de l'approche hobbésienne du contrat. Ce qui m'intéressait, et il me semble que c'est suffisamment important pour que je le reprenne un peu de façon différente, ce qui m'intéressait ici, ça portait précisément sur deux dimensions de la lecture hobbésienne du problème. D'une part, il me semblait important de comprendre comment l'acte même du contrat enveloppait cette forme de délégation des possessions. D'autre part, il me paraissait important de comprendre que Hobbes nous donnait la possibilité de relire cette question du contrat à partir d'un plan qui n'est pas très souvent mis en avant, mais qui me semble tout à fait décisif, qui est celui de la parole, justement, et des conditions depuis lesquelles il est possible pour l'individu qui ne parvient pas à se faire entendre dans l'état de nature d'accéder à un statut qui lui permette, justement, de se faire entendre. Au fond, le contrat par lequel chacun individuellement transfère son droit naturel à se protéger, je vous rappelle la figure de l'état de nature où chacun, porté par sa puissance d'autoconservation, finit par s'affronter dans un état d'hostilité générale à son semblable. La conséquence de ce contrat, c'est très précisément de constituer une somme de puissance, une somme de force qui va être celle du futur souverain. Et dans ce transfert, ce qui est très précisément visé, c'est l'érection d'un déséquilibre stable entre et irréversible entre la personne du souverain qui va en quelque sorte agréger et accumuler cette puissance et les individus qui, s'étant en partie dépossédés de cette puissance, deviennent de fait moins dangereux les uns à l'égard des autres. Au fond, la contrepartie de ce transfert, c'était évidemment que, à partir du moment où s'opérait la délégation et le transfert, l'individu se soumettait à l'expression d'une volonté unique, qui était posée comme l'expression de la volonté de tous, à savoir comme expression, j'insiste sur le terme, de la volonté de chacun. Au fond, ce qui allait avec l'accomplissement du contrat, c'était la constitution d'une volonté unique, univoque, légitime, dont on peut dire qu'elle était l'expression de la parole souveraine. Au fond, le souverain, détenteur de la toute-puissance concentrée, se trouve doté à la fois d'une volonté et d'une capacité d'expression. Il va dire la loi, et il va dire la loi qui est la loi de tous et pour tous. Et c'est cette diction, au sens littéral du terme, qui est autorisée comme parole unique, c'est-à-dire comme seule parole susceptible de se faire entendre et de dire la loi. Ainsi, la convention, celle qui va relier la multiplicité des individus qui se font la guerre dans l'état de nature, mais qui deviennent des auteurs, c'est-à-dire effectivement le point de départ de ce transfert, la convention va relier d'un côté ces auteurs, hein, les individus de la multitude, et de l'autre, un acteur, le souverain. Et c'est cette liaison entre auteur et acteur que Hobbes qualifie de convention d'autorisation, qui va produire justement une parole audible, une parole que l'on va pouvoir entendre, mais en même temps une parole qui s'impose. En quoi consiste ce transfert ? J'autorise en échange de ma sécurité, par l'instauration d'une loi commune, le souverain à parler en mon nom, c'est-à-dire à exprimer une volonté souveraine, légitime, qui est la sienne, qui est la sienne en tant qu'il est un individu, si on suppose que le souverain est une seule personne, qui est la sienne propre, qui est en même temps celle qui me représente, celle qui exprime ma propre volonté. Autrement dit, la parole du souverain, qui se fait entendre comme expression de sa volonté et qui s'impose en raison de la concentration des puissances, hein, eh bien cette parole, elle me représente. Elle me représente en tant qu'individu, en tant que porteur d'une part de la légitimité de cette source, de cette origine de la puissance. Et le souverain est l'acteur de ma propre volonté. Souvenez-vous l'image du masque, de la persona, hein, de la voix anonyme qui s'exprime à travers le masque. Et cette parole publique, elle est celle qui va dire la loi. Autrement dit, multiplicité des auteurs d'un côté, unicité du souverain acteur de l'autre, le souverain est précisément l'acteur de ma propre volonté. Il est mon porte-parole. Il s'exprime en mon nom, et c'est cela qui importe ici très précisément, c'est que le souverain qui parle de son propre chef s'exprime en mon nom. La parole qu'il dit est aussi ma volonté qui s'exprime dans cette parole dite. Donc, si dans l'état de nature chacun s'exprime, et personne ne se fait durablement entendre, puisque précisément chacun détient une force équivalente, et que par la ruse je peux renverser mon semblable, qu'est-ce qui caractérise l'état de nature ? C'est un état de dispersion sémantique, où règne une instabilité telle que je puis parler, je fais du bruit, mais je ne me fais pas entendre. Autrement dit, la force de ma volonté exprimée individuellement est égale à celle de mon semblable, et en quelque sorte, ces forces s'annulent. Dans l'état de nature, il y a beaucoup de bruit, mais il y a peu de signification partagée. En clair, ma parole est vaine. Ou, pour le dire encore d'une autre manière, je suis silencieux. Et si je désire me faire entendre, alors je dois le faire en transférant ma capacité d'expression envers un tiers qui, lui, comme acteur souverain, pourra faire entendre sa voix comme étant ma propre voix. La situation de l'individu dans l'état de nature est alors celle-ci. Il parle, ne parvient pas à se faire entendre, et tout est là. Pour se faire entendre, il est condamné à être parlé. Il est condamné à être parlé, ce qui veut dire qu'il ne peut pas exister verbalement autrement que par la procuration d'un tiers. Comme auteur, il est donc contraint de déléguer son pouvoir de parole, et cette délégation le condamne également au silence. Le condamne au silence, mais cette fois-ci non pas parce qu'il ne peut pas se faire entendre, mais parce que ce qui va se faire entendre, c'est une seule voix. Et c'est une seule voix qui suppose qu'il se taise. Au fond, l'équation philosophique est celle-ci. Elle est très réaliste. Hein? La seule capacité que j'ai à me faire entendre, c'est encore de me taire et de laisser parler la parole souveraine. Ce qui est important ici dans ce point, et qu'on va retrouver sous une autre forme chez Bourdieu, que je vais maintenant évoquer, c'est précisément que la constitution de cette parole souveraine, elle enveloppe l'élaboration d'une entité nouvelle qui est le corps politique. Même si, évidemment, chez Hobbes, il s'agit toujours d'individus, d'une multitude qui est à l'origine de ce transfert, il n'en demeure pas moins vrai qu'une fois le pacte signé, une fois le souverain constitué, l'objet de son exercice de la souveraineté, c'est un corps, et non pas une masse d'individus atomisés. Alors j'en viens maintenant à la présentation de Bourdieu. J'ai choisi de l'intituler de la manière suivante, « Les sans-voix ou condamnés à être parlés ». En effet, je souhaiterais maintenant examiner de quelle manière cette équation philosophique de la condition du porte-parole dont je me suis ici servi en allant explorer certains aspects de la théorie hobbésienne du contrat, j'aimerais voir ce qu'elle devient dès lors qu'on la reprend dans une lecture plus contemporaine et aussi plus sociologique. Alors, il ne s'agit pas évidemment de n'importe quelle lecture sociologique parce que c'est de Bourdieu dont il s'agit, et j'ai cru entendre dire tout au long de mes pérégrinations sur cet auteur que certains sociologues ne le considéraient pas vraiment comme un sociologue. Donc je préfère d'avance dire qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle lecture sociologique. Alors j'ai choisi cet auteur pour deux raisons. La première, c'est que lui-même, à propos de son analyse et de sa discussion de la question de la représentation en politique, eh bien, fait référence à Hobbes. Hobbes est un auteur auquel il se rapporte. Ça, c'est la première raison, et on peut dire qu'il y a une sorte de continuité entre ces deux mises en problème, même s'il y a évidemment énormément de différences qui les démarquent. J'aurai l'occasion d'en reparler. La deuxième raison pour laquelle je m'intéresse à Bourdieu, c'est évidemment son propre parcours de savant, car sans entrer dans le détail d'un itinéraire personnel qui est loin d'être simple et transparent, il y a une sorte de tension, me semble-t-il, peut-être de contradiction entre ce que nous dit Pierre Bourdieu du porte-parole, qui est un thème qui, en dehors de deux ou trois textes précis, est un thème très diffus tout au long de sa production savante. Donc je disais à la fois une sorte de tension entre ce que Bourdieu dit de la condition du porte-parole et ce qu'il aurait aimé faire en tant que sociologue public. Alors j'ai tout à fait conscience ici d'utiliser des termes avec beaucoup de guillemets, de prudence. Il s'agit plus d'une sorte de lecture hypothétique. Je ne veux pas simplement parler du rôle public qu'il va assumer, Bourdieu, à partir des années 95. Souvenez-vous, 95, c'est la période des grandes mobilisations sociales qui vont aboutir une forme de remise en cause du plan proposé par le premier ministre d'époque qui était Juppé et qui a été l'occasion de mobilisations extrêmement importantes, et c'est aussi la période où Pierre Bourdieu fait paraître un recueil de textes extrêmement importants sous le titre « La misère du monde ». Ce qui m'intéresse, au-delà du rôle qu'il a pu circonstanciellement ou factuellement jouer, c'est l'ambition qu'il avait pour la sociologie notamment cette question qui me semble tout à fait remarquable quand on lit certains textes de la période qui va à 95 jusqu'à la fin de sa production intellectuelle, à savoir est-ce que la sociologie ne pourrait pas être, sous condition et en raison de la posture critique qu'elle revendique, le porte-parole des dominés. Au fond, n'y aurait-il pas, dans la vocation naturelle de la sociologie, quelque chose qui la destinerait à pouvoir occuper cette place de porte-parole? Alors, c'est une question extrêmement compliquée et très ambivalente chez Bourdieu. sur laquelle je me proposerai là aussi la semaine prochaine de revenir en détail, parce que cette question, elle pose autrement, une fois de plus, le problème du rapport entre le savoir et les profanes, entre guillemets. Donc, je distinguerai pour cette raison deux moments dans la présentation de la position de Bourdieu, un exposé plus doctrinal, hein, qui porte sur sa qualification sociologique du statut du porte-parole, et puis un ensemble de considérations plus générales, plus hypothétiques, qui porteront sur l'ambivalence, ce que je crois être l'ambivalence de la posture de la sociologie comme possiblement porte-parole. Donc, premier point important, la question sociologique ou la définition sociologique du porte-parole selon Bourdieu. Alors, je dirais fondamentalement que, en fait, ce que dit Bourdieu explicitement du porte-parole, on le trouve dans deux textes, hein, dans deux textes, deux petits textes. Un texte qui s'intitule « Décrire et prescrire les conditions de possibilité et les limites de l'efficacité politique », qui est un texte de 1987. Et puis un autre texte de même nature. Ces deux textes sont regroupés dans un volume qui s'intitule « Ce que parler veut dire ». Je vous donnerai les références où je les ferai apparaître sur le site de l'Université Populaire pour que vous puissiez vous y reporter si vous l'estimez nécessaire. Alors, Pierre Bourdieu part d'une définition extrêmement abrupte, provocatrice, et comme souvent passionnante, en tout cas, qui force la réflexion. Voilà ce qu'il nous dit à propos du porte-parole dans « Ce que parler veut dire ». Il nous dit « Le porte-parole, c'est un imposteur. C'est un imposteur qui est pourvu du sceptron. » Le sceptron, c'est le sceptre, c'est l'image d'un attribut de la puissance, hein, du magistère. Pour essayer de comprendre cette définition un peu abrupte, il me semble qu'il faut comprendre préalablement dans quel contexte il apporte cette définition. Et il apporte cette définition et tout son raisonnement sur le porte-parole, son raisonnement sociologique sur le porte-parole, se fait à propos de la question des plus démunis. Au fond, il va distinguer ceux qui sont démunis et ceux qui ne le sont pas par ce principe que les démunis ont besoin de médiation pour se faire entendre. Au fond, ce qui différencie quelqu'un qui a des ressources, un certain capital, et notamment les parties de cadre, puisqu'il a en tête, hein, là, très précisément, une typologie des profils politiques, c'est que, d'un côté, il y a ceux qui sont en nombre, mais qui n'ont pas la capacité individuellement de se faire entendre, et de l'autre, il y a ceux qui sont moins nombreux, mais qui ont des ressources pour se faire entendre en tant qu'individu. C'est très important. Autrement dit, c'est à partir du problème des démunis, de ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être les sans-voix, c'est pas tout à fait la même chose, que pour Bourdieu, la question du porte-parole se pose de façon remarquable et quasi paradigmatique. Et quel est le problème que pose justement ici la condition du porte-parole? C'est très précisément, nous dit-il, le problème de la représentation. Au fond, la question de la représentation, c'est pas cette espèce de construction figée, devenue abstraite, qui consiste à aller déposer un bulletin dans une urne. Non, la question de la représentation, c'est d'abord et avant tout la question qui consiste à essayer de voir comment on peut se donner une voix. Et comment on peut se donner une voix lorsqu'on n'en a pas. Autrement dit, comment peut-on se faire entendre alors qu'on a besoin de se faire entendre? Parce que se faire entendre est une des conditions nécessaires et non suffisantes pour participer, je dirais, là aussi, dans un accent très obésien, Bourdieu le dit de façon tout à fait claire, aux luttes de constitution, hein, c'est-à-dire aux groupes qui s'affrontent pour imposer des normes, qui s'affrontent pour imposer des représentations et des visions du monde. Mais ces affrontements supposent là aussi des capacités d'expression. Donc, le problème ici, c'est précisément celui de se donner une voix alors que nous n'en avons pas. Et de ce fait, que nous en avons besoin. Alors je dis se donner une voie, il y a ici un paradoxe, hein, un paradoxe. D'ailleurs Bourdieu parle aussi de cercle, hein, de circularité. Un paradoxe, c'est-à-dire pratiquement une sorte d'impossibilité. Et cette impossibilité, elle est dans ce terme. Je ne peux pas m'attribuer par moi-même une voix pour me faire entendre. Je dois donc passer par un intermédiaire. Je dois donc passer par autre chose que moi-même. Je dois donc avoir recours à la médiation d'autre chose. Et la médiation d'autre chose, c'est ici précisément le groupe. Au fond, seule l'association va peut-être permettre de compenser le dénuement de ma propre parole. Vous savez, on a l'habitude d'opposer les parties de masse et les parties de cadre, et de dire qu'au fond, les masses ont compensé par la dimension numérique la faiblesse et la fragilité de leur capacité, là où les partis de cadre, eux, ont simplement des ressources économiques, institutionnelles, financières, pour pouvoir s'exprimer. Autrement dit, ici, on voit bien, et ça c'est un point extrêmement important de la posture critique de Pierre Bourdieu, c'est que l'individu, pour exister à la fois comme individu, et pour se faire entendre, est obligé de passer par la médiation du groupe. Et qu'est-ce que ça veut dire ici, la médiation du groupe? Ça va être, comme on va le voir, une constitution concomitante du groupe et du porteur de parole. Autrement dit, il n'y a pas d'abord des individus isolés, silencieux, et puis des groupes représentés. Dans une théorie assez classique, on dit, il va y avoir un tel qui va représenter les cadres, qui va représenter les médecins, etc., etc. Mais quand on s'intéresse historiquement à la constitution des représentations professionnelles, on se rend compte que ces représentations, elles sont l'aboutissement d'un processus historique extrêmement complexe, qui est à la fois celui de l'organisation et de l'expression de la voix de ceux qui sont organisés. Autrement dit, c'est la concomitance ici entre la constitution du groupe et sa capacité à s'exprimer qui est sociologiquement pertinente. Donc on n'est pas dans une lecture idéaliste de la représentation où il y a une réalité donnée et puis des éléments à représenter. On est dans une lecture historique où ce qui se représente se construit en même temps que ce qui est représenté. Et c'est la raison pour laquelle Bourdieu peut ajouter, dans des termes assez provocateurs, mais qui me semblent tout à fait justes, qu'il n'y a pas de voix à transférer. Et ça, c'est un point assez intéressant de la différence entre Hobbes et Bourdieu, c'est que pour Bourdieu, au départ, il n'y a pas de voix. Au départ, il n'y a que des êtres dominés et qui, sans capacité d'expression, vont essayer de construire une capacité d'expression. Et au fond, l'histoire de la représentation, nous dit-il, et ça c'est un résultat qui est extrêmement intéressant, c'est l'histoire de la formation des groupes. Donc, au lieu de prendre le problème à la surface et de dire, on va s'intéresser aux institutions qui délèguent, qui permettent d'organiser la représentation, il nous dit non, comprendre de quelle manière les groupes se constituent et se font entendre, voilà le problème sociologique qui permet de mesurer ce qu'est la représentation. Et cette constitution des groupes, elle est aussi celle de l'institution du porte-parole. Les deux vont ensemble, les deux sont liés, hein, et c'est à travers cette capacité d'expression que le groupe va exister. Alors autrement dit, et ça c'est un point tout à fait important, je le précise, je n'ai rien transféré, je suis seulement parlé à travers la voix de mon porte-parole. Et l'histoire sociologique de la constitution des groupes, c'est le mouvement d'organisation de structuration du nombre au service d'une parole qui va se faire entendre. Alors ici, il y a une différence très importante sur laquelle je voudrais insister entre la manière que j'ai eue de vous présenter l'hypothèse philosophique et ce que j'appellerais ici la lecture sociologique de Pierre Bourdieu. Dans l'hypothèse philosophique, on suppose que les individus sont constitués, ils existent, ils ont une volonté, ils ont une raison et ils ont une capacité à exprimer leur volonté, notamment le fait qu'à un moment donné, la peur de la mort violente me pousse rationnellement à décider de transférer une partie de ma capacité à me défendre auprès du souverain. On a donc, si vous voulez, une représentation où les individus sont des réalités toutes constituées, toutes instituées. Ce que nous dit Bourdieu à propos de la réalité sociologique, ici, c'est tout autre chose. Il nous dit, les individus, notamment pour ceux qui sont des conditions les plus démunies, ils n'existent pas au départ comme des individus. Ils vont peut-être advenir comme individus au cours de ce processus d'élaboration et de constitution du groupe. Ce qui veut dire que pour ces individus-là, l'articulation entre le groupe et ce qu'ils deviennent et la parole du porte-parole, ce sont des éléments qui vont ensemble. Autrement dit, il n'y a pas au départ des individus et à l'arrivée un groupe et un porte-parole. Il y a un mouvement historique global qui est un mouvement de constitution, de cogénèse des groupes, des individus et de leur expression. Et il me semble que sur ce point, ce que fait Bourdieu, c'est d'introduire une temporalité, une durée historique dans le modèle de Hobbes pour pouvoir justement se donner les moyens empiriques de décrire ces formations de groupes et de structures. Autrement dit, le point de vue idéaliste, celui que j'appelais idéaliste tout à l'heure, c'était le point de vue qui consiste à considérer que l'individu est doté d'une raison, d'une capacité et qu'il peut exprimer en toute indépendance sa volonté. Là où précisément, Bourdieu va faire voir et va donner à montrer que la constitution du groupe se fait dans une certaine violence, se fait dans des formes de dépossession, que, après tout, la constitution du porte-parole n'est pas forcément la conséquence d'un acte non violent, elle est l'expression d'un rapport de force, de lutte de tendance, d'une sorte d'hostilité qui va être régulée là aussi. Serait tout à fait intéressant de voir comment c'est Roberto Michels, dans un texte tout à fait classique, contemporain de Max Weber, qui s'intéressait à la formation des partis politiques, des premiers grands partis de masse à la veille de la Première Guerre mondiale, et qui montrait comment, avec une description tout à fait minutieuse, montrait comment justement et précisément se construisait progressivement l'appareil qui à la fois constitue le groupe et en même temps capte la parole, la confisque et monopolise en quelque sorte le canal légitime depuis lequel le groupe va pouvoir s'exprimer. Donc tout ça, il ne faut pas le voir dans une, dans une acception trop lénifiante, trop harmonieuse. La constitution des groupes, c'est aussi un processus qui est conflictuel, qui est l'occasion de rapports de force et où la parole s'arrache pour être constituée. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on pourrait s'intéresser à l'histoire des partis politiques ou des syndicats ou de n'importe quel type d'association pour faire apparaître cette tension constructive. Quoi qu'il en soit, la possibilité donc pour les plus démunis, pour les dominés, de se faire entendre suppose des conditions sociales. Et ces conditions sociales, ainsi que je viens de le suggérer, eh bien, me semble-t-il, elles n'ont pas grand-chose à voir avec la fiction du contrat et la fiction ou la représentation d'un monde fait d'individus libres, égaux, en droit. L'individu se fait autant qu'il est fait dans le groupe. Il ne préexiste pas au groupe. Et la parole portée par le porte-parole se constitue également dans ce moment de construction du groupe. Si l'on admet maintenant, et c'est évidemment aussi l'hypothèse de Pierre Bourdieu, si l'on admet que le problème du porte-parole, c'est aussi celui de faire exister le groupe, parce que c'est la seule manière pour ceux qui n'ont pas de voix de pouvoir se faire entendre, c'est-à-dire de rendre présent à ce qui est dit une réalité qui n'est pas immédiatement présente. Alors, la question du porte-parole, et je crois que là, tout ce que je viens de dire le montre, c'est aussi celle de la relation entre représentation et force. Autrement dit, il n'y a pas là non plus de raison de séparer l'analyse de la représentation, de la constitution de la condition du porte-parole, de celle de la force. Alors je précise un petit peu ici ce que j'entends par là. J'ai indiqué que faire le porte-parole, constituer le porte-parole, c'était en même temps faire le groupe. C'est-à-dire se donner une parole qui soit audible. La parole ici personnifiée représente, dans le sens que je viens d'indiquer, un groupe, un nombre, un ensemble, un collectif. Et c'est évidemment ce groupe, ce nombre, cet ensemble, ce collectif, qui va constituer également une partie de la force qui est attribuée à la voix de celui qui parle au nom du groupe. Autrement dit, la puissance d'expression, la capacité à se faire entendre, elle est tributaire de la nature du groupe qui constitue le porte-parole et qui va lui donner sa capacité d'expression. À ceci près que dans ce moment où la force acquiert une certaine puissance d'expression, eh bien, la voix qui va s'exprimer, pour être personnifié, pour être la personne ou la voix de X ou Y, porte-parole de saint ou de saint, cette voix, elle n'est que le porteur de voix anonymes. Je cite Bourdieu, voilà ce qu'il dit à propos des individus qui sont représentés. À l'état isolé, silencieux, sans parole, ces individus n'ont ni la capacité ni le pouvoir de se faire écouter, de se faire entendre, et ils sont placés devant l'alternative de se taire ou d'être parlé. Il me semble que on retrouve ici ce que j'ai essayé de vous montrer à propos de mon commentaire maladroit, j'en conviens, de Hobbes, sur la relation entre représentation et dépossession. On en retrouve ici une formulation saisissante à travers les deux termes de l'alternative qui caractérisent la condition des dominés, à savoir se taire ou être parlé. On peut dire que pour être efficace, la représentation doit donc accomplir une transformation, une sorte de conversion existentielle dans le statut des individus qui sont des êtres silencieux, impuissants, amorphes et qui deviennent, dans une personne unique, le fameux porteur de Skeptron, c'est-à-dire dans la personne d'un acteur doué d'une voix, ils deviennent quelqu'un. Mais ils ne deviennent pas quelqu'un en tant qu'individu, ils deviennent quelqu'un en tant qu'ils sont membres d'une totalité, d'un groupe, d'un ensemble, d'un collectif. Et c'est à ce titre qu'ils deviennent capables de dire. Et cette capacité, c'est précisément la force du groupe. Bourdieu parle encore du capital symbolique accumulé dans ce processus d'élaboration et de constitution du groupe. Alors ici, je le laisse de côté, mais il y a chez Bourdieu tout un ensemble de considérations extrêmement riches hein, sur la description, la possibilité de décrire comment s'opère la circulation entre la structure du groupe constitué et les porte-paroles. C'est-à-dire la circulation de la parole, puisque le groupe... évidemment, ce n'est pas simplement cette espèce de syntagme un peu figé, un peu abstrait que j'utilise, mais lorsqu'on s'intéresse par exemple à une institution comme l'Église, à une institution comme un parti politique, ou à une institution comme une organisation syndicale ou une association, l'analyse empirique précise permet de comprendre de quelle manière se structure le groupe. Comment se fait un organigramme qui se définit comme une répartition étagée des capacités d'expression de la base jusqu'au sommet, et quand la circulation de la parole se fait de manière aisée, fluide, on peut dire effectivement que le groupe existe à travers la parole de ceux qui parlent en son nom. Toute la question, c'est de savoir évidemment à quelles conditions cette circularité de la parole, ou cette fluidité plus exactement des capacités d'expression, opère. Là, évidemment, vous avez tout un ensemble de conditions qui sont là pour montrer que cette capacité d'expression, elle est éminemment instable, et qu'il suffit de changements de conditions historique pour que cet équilibre fragile dévoie. Notamment, il analyse dans un article qui est d'ailleurs donné dans les références que je vous transmettrai par l'intermédiaire du site, ce qu'il appelle la crise du sacerdoce, c'est-à-dire comment la crise du recrutement des prêtres dans l'Église catholique française de la période des années 60, début des années 80, est une crise qui peut s'analyser comme l'expression d'une sorte de déstructuration progressive de cette circularité de l'efficacité de la transmission et de la délégation de la parole de la base au sommet. Il y a comme une sorte de crise de confiance qui progressivement mine la capacité du groupe à s'auto-générer. Donc, voilà en gros cette thèse tout à fait fondamentale qui nous fait comprendre, ou qui nous permet de comprendre, me semble-t-il, de quelle manière les sans-voix peuvent se faire entendre. Il me semble que Bourdieu dit encore une autre chose tout à fait importante, sur laquelle je voudrais ici m'arrêter un petit peu, c'est l'idée que la constitution du groupe des dominés est tributaire de la position du porte-parole, et ce porte-parole, il va pouvoir user d'une situation qui lui permet de confondre à la fois la position du « je » qui parle en son nom et la position du « je » qui parle au nom du groupe. Pour le dire d'une autre manière, Bourdieu insiste très précisément sur cette confusion permanente qui caractérise le mode d'énonciation de la parole prononcée par le porteur de parole, qui consiste à passer indifféremment du « je » en tant que c'est le « je » qui représente celui qui parle, le « je » personnifié, et le « on » qui, du coup, est celui qui parle au nom d'eux. Alors, on pourrait penser que cette confusion entre le « je » et le « on » ou le « je » et le « nous » est une confusion contingente, parfois tributaire d'un effet de personnalité, après tout... Puisque, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, on peut considérer que le porteur de parole, c'est celui qui joue un rôle aussi, hein, qu'il s'exprime et qu'il porte sa parole. Mais ce qui est intéressant ici, et d'une certaine manière, sur ce point précis, il rejoint par un autre chemin Hobbes. Il nous dit non, pas du tout. Cette confusion des instances d'élocution, c'est-à-dire du « je » et du « on », elle n'est pas le fait du hasard, elle n'est pas contingente, elle est structurale. Elle est nécessaire. Elle conditionne à la fois la force de la position du porte-parole et évidemment la menace qu'il peut faire peser sur le groupe. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans cette confusion structurale entre le « je » et le « on », ce qui se joue, c'est très précisément la capacité à faire exister le groupe. Donc le groupe a besoin, en quelque sorte, de cette confusion des instances d'expression, sans quoi il n'existe pas, et en même temps, cette confusion, elle peut être l'occasion d'une transgression, c'est-à-dire d'une captation de cette parole du groupe. Et je crois qu'il faut bien comprendre que la question de la représentation telle que nous la pose Pierre Bourdieu à travers ce type de raisonnement autour du porte-parole, elle articule, elle relie de manière tout à fait substantielle, essentielle, ce risque, c'est-à-dire la dépossession et en même temps la capacité d'expression. Autrement dit, la confusion entre les instances d'expression n'est pas du tout quelque chose d'aléatoire, n'est pas du tout quelque chose de contingent. C'est précisément là, dans cette confusion, que réside toute la force et éventuellement toute la menace de la condition du porteur de parole. Autrement dit, il va de soi que le porteur de parole, que le porte-parole doit faire un usage personnel de la parole qu'il profère, et que c'est précisément cette confusion qui le transfigure, qui lui donne en partie le statut de parler au nom d'eux, et qui en même temps, évidemment, risque de se constituer en menace pour l'existence de ce groupe. Alors, juste un point sur la comparaison que je suggérais avec Hobbes. Évidemment, ici, ce qu'indique Bourdieu, on le trouve déjà d'une certaine manière dans la manière dont Hobbes pose le problème du transfert et du contrat, puisque d'une certaine manière, une fois que le souverain est constitué, le souverain étant constitué, il l'est de manière irréversible. Je vous renvoie à ce petit schéma des sommes, hein, de l'accumulation des puissances individuelles dans la personne du souverain. Donc là, la confusion, elle est tout à fait... elle est non seulement possible, mais elle est requise. Elle est requise et elle est irréversible. C'est le souverain, en tant qu'il a été légitimement constitué, qui, dans sa parole, exprime et s'exprime pour les autres. Mais la question de savoir s'il y a une confusion ici, dans les instances d'énonciation, entre le « je » de la volonté du souverain qui s'exprime et le « on », il n'y en a pas. Alors ce qui est intéressant ici, et ce qui différencie la posture de Bourdieu, c'est qu'il réintroduit cette incertitude comme un vecteur susceptible d'expliquer les aléas, notamment dans l'histoire de la formation des partis, des porte-paroles, les questions de contestation, de la légitimité des paroles portées, etc., etc. Donc il y a là un jeu structural qui permet aussi de se donner un programme de description de l'histoire des partis ou de l'histoire des groupes. Et qui, de ce point de vue-là, me semble-t-il, relève bien de la démarche sociologique de l'auteur. Alors il me semble qu'il ressort, et je terminerai sur cette idée, il me semble qu'il ressort de ceci une idée force tout à fait essentielle qui est là aussi d'une certaine manière une radicalisation, si vous voulez, du propos hobbésien. C'est qu'au fond la représentation, à travers la figure du porte-parole, ça n'est pas une relation de représentation, c'est une relation de production. Au fond, le porte-parole ne représente pas le groupe, il le construit. Il en est une construction et il le construit. On revient donc ici sur cette idée de la circularité des actes de délégation. Et c'est la raison pour laquelle, dans la définition, la première définition que je donnais de Bourdieu, qui est une définition qui peut paraître un petit peu abrupte. Le porte-parole est un imposteur pourvu du sceptron. L'imposture ici, il faut la comprendre comme effectivement cette idée que la constitution de la figure du porte-parole, c'est pas l'aboutissement d'un processus harmonieux où on va déléguer et puis progressivement, par une sorte de mouvement ascendant, sélectionner les meilleurs. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force et c'est quelque chose qui résulte d'un processus, d'un arrachement. Et cette imposture, elle finit par revêtir les allures d'une légitimité, comme toutes les légitimités fondées sur des impostures. Alors pour conclure sur ce point, je dirais que l'hypothèse sociologique de Pierre Bourdieu, me semble-t-il, en tout cas c'est la conviction de lecture qui a porté mon propos d'aujourd'hui, permet de comprendre que la question du porte-parole, elle est à la fois liée au problème de la représentation et elle est surtout portée par une dynamique des conflits qu'on peut retrouver à l'échelle des groupes, mais entre les groupes eux-mêmes, et qu'elle est caractérisée principalement par cette ambiguïté structurale qui fait que celui qui n'a pas les moyens de s'exprimer est obligé de se taire pour se faire entendre, tout de même que celui qui parle au nom d'eux a la riche possibilité et la menace en même temps de pouvoir s'exprimer en son nom et de pouvoir dire le groupe au nom du « on » depuis lequel il s'exprime. Alors je voudrais juste terminer par une idée peut-être un tout petit peu plus générale, mais qui me servira également de transition pour ce que je raconterai la prochaine fois. Au fond, dans ce schéma de l'analyse sociologique du groupe et du porte-parole, on est dans une sorte de relation inverse qui fait que ça n'est pas le mot, la parole ou le symbole qui représente une réalité qui serait le groupe déjà donné, mais que c'est précisément les mots, les discours et les symboles qui font exister quelque chose qui n'existe pas encore. Et dans cette relation, pour utiliser un terme plus précis, entre ce qui est signifié et les instruments de la signification, eh bien, la relation, elle ne va pas du réel au symbolique, mais elle va très précisément du symbole au réel. Autrement dit, et je m'arrêterai là pour cette fois-ci, ce qui fait exister le groupe, c'est un ensemble de mots. Je vous remercie.